Une vie, une œuvre, Gaston Leroux, 1868 Paris, 1927 Nice. Alfred Leroux est entrepreneur de travaux publics quand il épouse Marie Bidot, fille d'un huissier de Fécamp. Leur fils Gaston est élevé en Normandie, passe son baccalauréat à Caen avant de suivre des études de droit à Paris. Le journalisme est son activité. À l'Écho de Paris, puis au Matin, qu'il engage comme grand reporter. Il se rend en Espagne, au Maroc, mais aussi en Angleterre, en Russie, où il assiste à l'effondrement du régime tsariste. Entre feuilletons et romans, il écrit sans cesse. Joseph Rouletabille hante ses romans du mystère de la chambre jaune au parfum de la dame en noir. Il fascine les surréalistes. C'est à Nice qu'en 1918, il crée la Société des ciné-romans et produit sur plusieurs épisodes La Nouvelle Aurore, Tue la mort, Le Sept de trèfle ou Rouletabille chez les comédiens. Il défend le roman policier et milite contre la peine de mort. C'est à Nice qu'il tire sa révérence. Florence Marguier signe, avec Jean-Claude Loiseau, Une vie, une œuvre, Gaston Leroux.
Parlons sérieusement. Vous vous rappelez cette phrase qui a été le « Sésame, ouvre-toi » de ce château plein de mystères ?
Parfaitement. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat.
Je vais vous dire maintenant ce qu'il en est de cette phrase saugrenue. Je ne sais si vous savez que l'avant-veille du crime, c'est-à-dire le 23, monsieur et mademoiselle Stangerson sont allés à une réception à l'Élysée. Jusqu'à ce jour, je ne les avais jamais vus. J'étais assis dans le salon qui précède le salon des ambassadeurs et je me laissais aller à une vague rêverie. Quand je sentis passer le parfum de la dame en noir. Vous me demanderez, qu'est-ce que le parfum de la dame en noir ? Qu'il vous suffise de savoir que c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il était celui d'une dame, toujours habillée de noir, qui m'a marqué quelque maternelle bonté dans ma première jeunesse. La dame qui, ce jour-là, était discrètement imprégnée du parfum de la dame en noir, était habillée de blanc. Elle était merveilleusement belle. Je ne pus m'empêcher de me lever et de la suivre, elle et son parfum. Un homme, un vieillard, donnaient le bras à cette beauté. Chacun se détournait sur leur passage et j'entendis que l'on murmurait « C'est le professeur Stangerson et sa fille ». C'est ainsi que j'appris qui je suivais. Ils rencontrèrent M. Robert Darzac, que je connaissais de vue. Darzac entraîna Mlle Stangerson dans les serres. Je les suivis. La nuit était obscure. L'herbe étouffait mes pas. Ils étaient arrêtés dans la clarté vacillante d'un bec de gaz et semblaient, penchés tous les deux sur un papier que tenait Mlle Stangerson, lire quelque chose qui les intéressait fort. Ils ne m'aperçurent point et j'entendis distinctement Mlle Stangerson qui répétait en repliant le papier « Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. » Et ce fut dit sur un ton à la fois si railleur et si désespéré, et fut suivi d'un éclat de rire si nerveux, que je crois bien que cette phrase me restera toujours dans l'oreille. Mais une autre phrase encore fut prononcée, celle-ci par M. Robert Darzac. « Me faudra-t-il donc pour vous avoir commettre un crime ?»
Une vie, une œuvre. La double vie de Gaston Leroux.
Il y a à la fois de l'humour noir, et vous savez que les surréalistes appréciaient beaucoup Gaston Leroux. Les surréalistes, Gaston Leroux est décédé en 1927, c'est à l'époque même où les surréalistes commençaient à faire parler beaucoup d'eux. André Breton appréciait Gaston Leroux, et ils appréciaient Gaston Leroux précisément par ce second degré que l'on trouvait dans son œuvre, par l'insertion de phrases tout à fait irrationnelles qu'il parvenait à mettre dans ses œuvres. Il y avait donc chez lui, d'une part, le désir d'être un romancier populaire dans la grande lignée des Paul Féval, Zévaco, Dumas, etc. Et d'autre part, le désir de miner de l'intérieur ce qui qu'il faisait, en y mettant une force explosive au niveau de l'humour, qui a pu séduire les surréalistes et certains des écrivains les plus actuels.
François Garrif, qu'est-ce qui vous a amené à découvrir Gaston Leroux ?
Bon, écoutez, je crois que le premier livre que j'ai lu, c'est Le mystère de la chambre jaune. Et j'ai été, justement, déjà à l'époque, j'étais gamin, parce qu'on disait, quand vous étiez en classe, on vous donnait des petits récits comme ça. Et alors celui-là, non seulement c'était un gros récit, mais surtout, j'y ai trouvé autre chose que ce à quoi je m'attendais. Alors, j'ai dit, le mystère de la chambre jaune, bien sûr, c'est un mystère, et c'est un mystère résolu de façon extrêmement astucieuse, mais surtout, j'ai trouvé une densité romanesque, un personnage extraordinaire, et quand j'étais bouleversé en lisant Le parfum de la dame en noir, c'est-à-dire que d'un seul coup, je m'attendais à trouver qu'une histoire policière, et je trouve un formidable mélodrame, et quasiment une tragédie. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, je veux pas dire, mais quand Rouletabille découvre l'identité de sa mère, c'est un moment assez extraordinaire. Et après, moi, j'ai un côté comme ça, quand je lis quelque chose de quelqu'un qui me plaît, j'ai lu Chérie Bibi, j'ai lu, que j'adore aussi, c'est une tragédie, l'histoire de l'homme qui voulait mourir, et qui voudrait mourir et qui ne peut pas mourir. Et puis il y a ces italiques, c'est vrai, ces phrases que relevaient les surréalistes qui sont extraordinaires, le presbytère n'a rien perdu de son charme, etc. Pas les mains, j'arrive à me dire. Enfin, moi j'adore en plus ce genre de roman policier ou fantastique, c'est-à-dire cette façon de se mouvoir dans un univers fantastique dont à la fin on donne une clé parfaitement rationnelle. Ça n'enlève rien, je veux dire, ça ne détruit absolument pas l'enchantement, au contraire ça enrichit, c'est-à-dire ça donne une dimension supplémentaire. On referme le livre quand même avec toujours l'impression d'avoir vécu une histoire merveilleuse, impossible et tout, mais en même temps on a l'impression que bon, cette façon de l'ancrer dans une réalité possible, je trouve, lui donne une résonance formidable.
Gaston Leroux vit 60 ans. Il est mort quand même encore jeune. Il est né donc en 1868 et il est mort en 1927. Et cette vie de 60 ans va se découper en trois tranches de 20 ans, à peu de choses près, en simplifiant un tout petit peu.
Alphu, biographe de Gaston Leroux.
Donc la première période, c'est la période d'enfance et de formation en Normandie, puisque s'il est né à Paris, sa famille était installée en Normandie, son père était entrepreneur, et il va faire des études, entre autres au Collège 2, où il aura comme condisciple Philippe d'Orléans, qui est le futur prétendant au trône de France, et qu'il interviewera d'ailleurs à Londres, ce qui sera son premier scoop et sa première grande étape professionnelle comme journaliste plus tard. Donc cette période, il passe son baccalauréat à Caen et il vient s'installer à Paris pour faire des études de droit, donc à l'âge de 20 ans environ. Et il va continuer ses études, il va aboutir puisqu'il sera avocat, il prêtera serment, mais il va abandonner cette carrière très rapidement pour la carrière des lettres qu'il avait déjà un petit peu entamée en tant qu'étudiant, et c'est pour ça qu'on peut dire qu'à 21 ans, il publie son premier texte, qui est un poème à la gloire de Lamartine, dans une revue qui s'appelle La Lyre universelle, et c'est le premier tournant de sa vie, et ça entame la deuxième période de 20 ans qui, elle, va être essentiellement consacrée au journalisme. Car les tentatives qu'il va faire, qui sont au départ des tentatives dans l'art dramatique, puisque l'ambition de beaucoup d'auteurs à cette époque-là est d'être auteur dramatique, c'est l'art par excellence, c'est là où on brille, où on réussit, où on gagne de l'argent, ces tentatives vont échouer plus ou moins, ou carrément échouer au départ, un petit peu réussir par la suite, puisqu'il sera quand même monté à l'Odéon par Antoine, mais sans lendemain. Et dans le même temps, en tant que journaliste, il va évidemment rentrer dans les journaux, qui est Le Matin, le grand journal Le Matin, qui est l'un des quatre grands quotidiens de l'époque, qui va lui proposer d'écrire des feuilletons. Et c'est comme ça qu'il va se décider sa carrière de romancier. Mais cette carrière, il va véritablement l'engager de façon professionnelle à l'âge de 40 ans, en 1908. Donc c'est la troisième tranche. Et là, il va s'installer très rapidement à Nice, sur la Côte d'Azur. Et il va faire sa carrière professionnelle de romancier, de feuilletoniste. Il va essayer également de faire carrière dans le cinéma. Mais on peut dire que là, ça, un peu comme pour le théâtre, ça va tourner court. Ça ne va pas être véritablement un succès. Et donc, voilà, la troisième partie de la vie de Gaston Leroux sera dédiée au feuilleton et au roman.
Il est là! Attrapez-le, attrapez-le, il veut gagner les toits! Tirez! Non!
C'était un homme délicieux qui avait un caractère en général très régulier. Il était plein de générosité et surtout il était très gai, très communicatif.
Madeleine Leroux, archive INA.
Il avait facilement d'excellents amis, il se les faisait rapidement. Et on était toujours entouré d'un groupe en général à la maison autour de lui. Et c'était ponctué de rires de chacun, mais surtout du rire de mon père qui était très particulier. J'ai jamais entendu personne rire comme lui. C'était des petits sons qui rebondissaient, vous savez, avec une voix un peu enrouée, des petits cris. Et puis ça n'en finissait plus. C'était très communicatif. Il était très léger aussi dans sa façon de marcher, d'aller, de venir, malgré qu'il était assez gros. C'était certainement même de l'obésité. Et on avait l'impression que ça l'aidait plutôt à rebondir qu'à l'alourdir. Quand mon père finissait un roman, dans la villa des Orangers, c'était la villa du bonheur, il fallait qu'il y ait le silence le plus total dans la maison. Et quelques amis, quelques parents, la domesticité également, qui faisait vraiment partie de la famille, tous nous attendions. Et tout d'un coup, la fenêtre du bureau, qui avait un balcon au-dessus de la terrasse, s'ouvrait, nous étions sur la terrasse, et il tirait des coups de revolver. Ça voulait dire que le roman était terminé. Tout le quartier le savait, du coup. Et alors nous prenions de la vaisselle, on la cassait, on buvait du champagne, on envoyait les verres par-dessus les épaules, enfin, on prenait des couverts de casserole, on avait l'air d'une bande de sauvages. Et c'était comme ça à chaque roman.
Les romans de Gaston Leroux sont très faciles à dater puisque ça commence aux alentours des années 1900.
Jean-Pierre Bourg.
Le premier roman, La double vie de Théophraste Longuet, a été écrit en 1903. Nous sommes à une époque où le roman populaire commence à s'essouffler tout doucement. Gaston Leroux est effectivement le fils spirituel de Paul Féval. Et on a l'impression qu'il s'aperçoit, malgré la concurrence de Leblanc, de Lerouge, etc., on a l'impression qu'il s'aperçoit que le roman populaire connaît ses dernières grandes années. Et c'est d'ailleurs ce qui va probablement l'amener à mettre une sorte de second degré dans ce qu'il écrit.
Ce second degré consiste en quoi ?
Alors, ce second degré consiste dans le fait que, dans ses meilleurs romans, il apparaît tout à fait évident que Gaston Leroux ne se prend pas du tout au sérieux. Il éprouve un plaisir évident à entraîner le lecteur dans des aventures extraordinaires où les énigmes se succèdent et à utiliser un style qui recourt très souvent au pathos, mais à un pathos qui est doublé d'humour, notamment avec la fameuse utilisation des italiques que l'on constate très souvent dans ses meilleurs romans et qui donne à tous ces grands romans, je pense au Mystère de la Chambre Jaune pour les romans policiers, au Roi Mystère, à la Reine du Sabbat, au Fantôme de l'Opéra, qui donne à tous ces grands romans cette dimension humoristique et pathétique à la fois qui leur donne vraiment une coloration tout à fait spécifique.
Les journaux eurent au fait de mettre tous les événements bizarres qui s'étaient passés depuis quelques mois à Paris sur le compte d'un mystérieux clown dont les fantaisies, dénotant un esprit atteint de folie, risquaient de devenir dangereuses pour la population. La première manchette, qui répandit l'émoi, était ainsi libellée.
« Jeune fille, ne quittez pas vos parents. »
Elle surmontait un article où il était dit que le clown mystérieux qui marche dans les arbres avait été vu dans un marronnier des Tuileries, et qu'on avait des raisons de croire qu'il n'y était pas seul. Des personnes dignes de foi prétendaient l'avoir vu emporter, comme un sauvage, une jeune fille dans ses bras. Mais cette première manchette, qui répandit l'émoi, n'était rien à côté de la seconde qui, elle, répandit la terreur.
Quatre jeunes filles disparues. Un monstre, indigne du nom d'homme, les traîne par les cheveux dans les arbres, les emporte comme une proie sur les toits de la capitale.
Une autre jeune personne qui sortait de l'hôpital et qui se reposait sur un banc du square Montholon n'avait dû son salut qu'à ce qu'au cours de sa maladie, on lui avait rasé la tête. Le chignon seul était resté entre les mains du monstre. La préfecture de police était sur les dents. On exigeait du conseil municipal des mesures exceptionnelles. Des imbéciles, comme il y en a toujours dans les moments les plus difficiles où personne n'a envie de rire, Des imbéciles prétendirent qu'il n'y avait qu'un moyen de se débarrasser du clown mystérieux qui marche dans les arbres, c'était de couper tous les arbres. La ville Lumière perdait la tête.
Elle fut donc Gaston Leroux, reporter, journaliste au Matin. Alors, il a été embauché, il fournit des articles. Comment se passe son travail en tant que reporter journalistique ?
Ben disons qu'il a commencé donc par faire des piges, on dirait, pour des procès. En tant qu'avocat, donc il était bien placé pour un journal qui s'appelait Paris. Il a été assez brillant parce qu'il avait une méthode d'investigation qui était très dynamique, qui était tout à fait en contresens de ce qui se faisait à l'époque, puisque à l'époque, les chroniqueurs judiciaires étaient des gens qui se contentaient de faire lire, de recopier l'acte d'accusation et de faire un compte-rendu au jour le jour. Lui a voulu faire une enquête parallèle, en fait. Donc, de ce point de vue-là, il est un reporter très moderne. Et ça a beaucoup plu au Matin, donc qui était un des grands quotidiens de l'époque, qui l'a embauché pour cela. Et puis, apparemment, il était très dynamique et il avait une bonne plume. Donc, petit à petit, il est devenu reporter sur un certain nombre d'affaires, pas seulement judiciaires. Et puis, il est devenu grand reporter. C'est-à-dire qu'on l'a envoyé à l'étranger faire des reportages. Il a, par exemple, accompagné les présidents de la République à plusieurs reprises en voyage, entre autres en Russie ou en Italie. Et puis, il s'est occupé de la rentrée parlementaire. Il s'est occupé d'enquêtes, entre autres, dans un domaine qui tenait à cœur au directeur du Matin, qui était l'eau à Paris. Il y avait des problèmes à la fin du 19e siècle de salubrité dans la capitale, avec entre autres l'eau dont on avait dit qu'elle avait diffusé la typhoïde. Et il y a eu des enquêtes de fait très sérieuses, des mises en accusation des gens de la mairie de Paris, etc. Et Leroux était l'un des fers de lance de cette campagne du Matin. Donc il est devenu responsable de l'information du Matin. Il a gravi les échelons, si on peut dire. Et à la fin de sa carrière, en 1907, il est carrément l'envoyé officiel du Matin à Berlin pour représenter le journal qui avait organisé un raid automobile entre le Japon et Paris.
Je crois qu'il allait même jusqu'à traquer dans les cuisines pour avoir des renseignements. Enfin, il se débrouille, c'était un grand débrouillard en fait.
Oui, tout à fait. Ça, c'est ce qui faisait son succès. C'est que c'est quelqu'un qui faisait les enquêtes lui-même. Il adorait faire les enquêtes. Il adorait trouver des astuces. Et effectivement, il a contourné, entre autres, ça, c'est l'épisode célèbre où il a su où se rencontraient le tsar et l'empereur d'Allemagne parce qu'il avait, dans les cuisines, appris où allait avoir lieu le repas. Donc ça, c'était tout à fait ça. De même qu'au tout début de sa carrière, en tant que chroniqueur judiciaire, il est arrivé à entrer dans la prison, ce qui était rigoureusement interdit, en se faisant passer pour un anthropométriste. Et ainsi, il a pu interroger le condamné et avoir un scoop, ce qu'on appellerait aujourd'hui un scoop. Donc ça, de ce point de vue-là, il était très, très futé.
Gaston Leroux a profité du fait qu'il a fait le barreau pendant 3 ans, qu'il a été journaliste et chroniqueur judiciaire pendant de nombreuses années, et il a d'abord pour caractéristique, ça lui restait probablement de ces 3 années de barreau, de vouloir convaincre. Et dans ces romans que je qualifierais de rationnels, ces romans policiers, une partie des Rouletabille en tout cas, il a effectivement construit le roman d'une manière telle qu'il s'agit de convaincre. Il s'agit de bâtir une énigme sur d'ailleurs des thèmes assez classiques, notamment le thème du meurtre commis dans une pièce tout à fait fermée. Il le fait d'une manière relativement classique au niveau de la construction, encore qu'il parvient à enchevêtrer les énigmes. Donc il y a là quelque chose de tout à fait rationnel au niveau de l'écriture. Mais il n'essaye pas seulement de convaincre, il essaye aussi de séduire, et ça c'est peut-être le journaliste, ou le journaliste ex-avocat qu'il a été, il essaye de séduire. Il essaye aussi d'emporter l'adhésion du lecteur en utilisant, et ça n'a rien de péjoratif, le recours au pathos. Il va utiliser des techniques qui ne sont pas sans rapport d'ailleurs à ce que les grands avocats pénalistes de l'époque devaient faire, on l'imagine assez volontiers, dans le cadre de procès d'assises, des effets de manche, etc. Il n'hésite pas de temps à autre, avec son humour à lui, à faire l'équivalent d'un effet de manche en introduisant des phrases volontairement un peu emphatiques à des moments qui ne s'y prêtent pas, ce qui donne un effet d'ailleurs de recul assez intéressant. Et je dirais, c'est peut-être le journaliste qui réapparaît là derrière, ce désir aussi de leurrer le lecteur, de l'amener dans des dédales, dans des labyrinthes, d'amener le lecteur à se dire, mais comment va-t-on sortir de cette histoire? Et on ne cesse de dire d'ailleurs que les lecteurs de Gaston Leroux sont des personnes qui ne fermeront pas le livre avant d'être arrivés jusqu'au bout de celui-ci, ce qui est effectivement vrai de ses meilleurs romans.
C'est un pionnier de la littérature policière en France, à une époque où elle est encore relativement mal dégagée des moules de la littérature populaire.
Jacques Boudou.
Il arrive derrière Émile Gaborio, qui est le premier à avoir écrit des romans policiers. À l'époque, on n'appelle pas ça des romans policiers, on appelle ça des romans judiciaires, qui aussi sont beaucoup plus proches, en fait, du roman populaire, avec ses intrigues mélodramatiques, que du récit policier, comme vont le faire les Anglais à peu près à la même époque, vers 1900, 1880-1900, avec des auteurs comme Conan Doyle et quelques autres. Gaston Leroux, lui, il écrit à la fin du 19e siècle, au début du 20e, et il va traiter d'un sujet qui est une espèce de marque de fabrique du roman d'énigme, c'est-à-dire l'énigme à son point ultime, qui est le mystère de la chambre close. C'est un sujet qui a déjà été traité par Edgar Poe dans une de ses nouvelles. Et Gaston Leroux va reprendre ce sujet et va en faire quelque chose d'assez étonnant, parce qu'il va trouver une solution très différente de celle d'Edgar Poe. Rouletabille, qui est un personnage de journaliste et pas de policier ni de détective, il devient détective par nécessité pour exercer son métier de journaliste, conduit son enquête selon des règles logiques extrêmement précises, il récapitule les événements qui sont déroulés, il essaie de cerner ce qui s'est passé et les déductions qu'on peut en tirer. Et il arrive à la solution par des moyens logiques. C'est un logicien dans la droite ligne de Sherlock Holmes. Mais en même temps, toute l'histoire autour de cette énigme policière est une histoire extrêmement mélodramatique, avec un personnage de femme qui a eu une aventure quand elle était très jeune, qui a eu un fils de cette aventure, qui a été mariée à un maître du crime du nom de Ballmeyer, qui est en fait un personnage à la Fantômas. On n'est pas très loin de Fantômas. Et pour le don du déguisement de ce personnage d'Arsène Lupin aussi, qui a les mêmes aptitudes au grimage et au déguisement. Et on va encore plus loin dans cet aspect mélodramatique par le fait que le coupable, alors là on va trahir un secret, mais on est bien obligé, que le coupable est en même temps le policier qui enquête sur l'affaire. Donc là c'est une trouvaille qu'a fait Gaston Leroux, qui sera utilisée dans le roman policier, mais beaucoup plus tard, parce que le personnage qui a priori est le moins soupçonnable dans un roman policier, c'est l'enquêteur.
Là, je me suis rendu compte que l'assassin que nous avions poursuivi n'avait pu, cette fois, ni normalement, ni anormalement, quitter la galerie. Alors, avec le bon bout de ma raison, j'ai tracé un cercle dans lequel j'ai enfermé le problème. Et autour de ce cercle, j'ai déposé mentalement ces lettres flamboyantes. Puisque l'assassin ne peut être en dehors du cercle, il est dedans.
Michel Cazenave.
Ce qu'il y a de réellement intéressant dans Rouletabille, création tout à fait originale de Gaston Leroux, c'est que il y a souvent, et en très grande partie même, une sorte de dimension du fantastique, si l'on peut dire, une dimension du mystère, et qu'en même temps, Rouletabille, qui au départ d'ailleurs est simplement un petit reporter, et qui va s'imposer à la suite des deux enquêtes qui sont liées l'une avec l'autre, bien entendu, du parfum de la dame en noir et du mystère de la chambre jaune, va être reconnu effectivement comme l'un des grands détectives en quelque sorte de son temps, et on va le voir ensuite aller chez le tsar, aller même chez Krupp pendant la guerre de 14-18, comme s'il était devenu d'une certaine manière, je dirais, l'archétype du détective d'esprit policier français. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant chez lui? C'est qu'en effet, il est mu par des sentiments extraordinairement profonds. Et lorsque je dis des sentiments, c'est même à certains égards des pressentiments. On voit bien, par exemple, dans Le Parfum de la Dame en Noir, dans Le Mystère de la Chambre Jaune, comme sa mère, dont il ne sait pas que c'est sa mère, en réalité, il en a une sorte d'intuition très profonde, je dirais presque quasiment poétique. Comment donc il y a une dimension en même temps du fantastique? Je pense à tout ce qui se passe pendant la guerre des Balkans, au moment de la guerre entre Turcs et Bulgares en Bulgarie, justement, que ce soit dans le Château Noir ou dans les étranges noces de Rouletabille, où on fait appel à tous ces décors exotiques pour mettre en scène des passions tumultueuses et même plus que tumultueuses, des passions à la vie, à la mort. C'est la mort des personnages même qui se joue, et particulièrement de celle qui va devenir la fiancée puis la femme de Rouletabille, c'est-à-dire Ivana. Et où, par rapport à cela, ce que Rouletabille introduit précisément, c'est son expression favorite, il faut tenir le bon bout de la raison. Autrement dit, plus la situation est apparemment irrationnelle, plus elle est d'ordre du fantastique, moins on a de prise dessus, plus il faut se fier à cette sorte de petit fil, en quelque sorte, que représente la raison, parce que, quoi qu'il en soit, il y a toujours une logique dans la situation. On en a d'ailleurs la preuve la plus merveilleuse, je dirais, dans Le Mystère de la Chambre Jaune, au moment où, évidemment, nous sommes dans un cas complètement incompréhensible, qui est devenu d'ailleurs un classique de la littérature policière, un cadavre dans un endroit hermétiquement clos, donc personne n'a pu pénétrer. Qu'est-il arrivé? Et puis Gaston Leroux met les choses de telle manière que nous avons un moment absolument extraordinaire où les trois personnages principaux du roman se rencontrent à la croisée de trois couloirs. Or, évidemment, nous avons là l'analogie, le symbole, je dirais, de la croisée des destins, bien entendu. Mais en même temps, dans cette rencontre de ces trois hommes, la solution logique est donnée. Et on voit bien que c'est le lecteur, qui, emporté par le côté fantastique, emporté par le côté irrationnel de la raison, lui ne sait pas décrypter les choses. Alors que Rouletabille, à chaque fois, se dit « il y a une solution rationnelle ». Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est que, d'une certaine façon, je veux dire, Rouletabille représente, justement, par rapport à ce socle de fantastique, de sentiments, d'émotions, d'affects qui sont les siens, représente une attitude que, à la limite, j'appellerais même du sur-rationalisme. C'est-à-dire justement l'exercice de la raison, tout en intégrant l'élément fantastique, mais la raison finissant, je ne dirais pas par triompher, ce qui supposerait justement la destruction de cet élément fantastique, mais la raison finissant par dépasser le fantastique. Vraiment, il s'agit d'un phénomène de dépassement, ce qui fait que le fantastique demeure, et pourtant, en même temps, il se trouve expliqué, et expliqué à un niveau supérieur.
Mais donc, est-ce que ce bon bout de la raison que l'on suit, qui est ce fil rouge, en fait, n'est pas aussi cette image du cercle? Parce que souvent, enfin, je pense à Rouletabille, on a l'impression que la logique veut que le cercle se ferme.
Enfin, oui, il y a une double logique par rapport à cette image que je trouve extraordinairement parlante. C'est qu'il faut que le cercle soit fermé, parce qu'effectivement, il faut que la logique se reboucle sur elle-même. On ne peut pas en échapper. Et en même temps, nous avons généralement des situations totalement irrationnelles au départ. De ce point de vue-là, d'ailleurs, le mystère de la chambre close, le mystère de la chambre jaune, mais de la chambre close, dans laquelle on ne peut ni entrer normalement ni sortir, représente au contraire le cercle fermé, duquel la raison va nous aider à sortir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette double structure en quelque sorte. La raison, c'est à la fois le cercle fermé, nous sommes dans ce que j'appelle l'hyper-rationalisme, et en même temps, c'est ce qui aide à ouvrir le cercle que d'une certaine manière elle a elle-même fermé. Et c'est ce que j'appelle le surrationalisme. Et c'est là où en même temps, je dis, on voit bien que la raison se place à deux niveaux. Elle ferme et en fermant, elle ouvre.
Rouletabille n'est pas un personnage que l'auteur va s'accaparer pour faire une carrière, contrairement à d'autres comme Arsène Lupin qui a fait la carrière de Maurice Leblanc. Il apparaît au début de la carrière de Leroux, enfin au début de la carrière professionnelle de Leroux, avec deux romans donc, qui sont Le mystère de la chambre jaune et Parfum de la dame en noir. Et là, c'est un personnage tout à fait inspiré des enquêteurs anglo-saxons. D'ailleurs, Gaston Leroux l'avouera par la suite. Il se démarque évidemment de Conan Doyle, mais il s'inspire énormément de Conan Doyle. Et puis, une fois qu'il a fait cela, Gaston Leroux, le personnage l'intéresse plus en tant que tel. Donc, il veut pas en faire un fonds de commerce.
Il veut pas en faire un sous Sherlock Holmes.
Ce qui l'intéresse, c'est plutôt le thème. Alors, ensuite, il veut faire un livre sur la Russie, puisqu'il a connu la Russie tsariste et il a vécu des événements là-bas. Et il utilise de nouveau Rouletabille parce que, effectivement, c'est, ne serait-ce que publicitairement, je dirais commercialement, c'est intéressant pour lui. Mais déjà, le climat est plus le même. Rouletabille, là, n'enquête plus avec forcément des indices. Il est pris dans l'aventure, il est carrément fait prisonnier par les nihilistes, etc. Il devient déjà un homme d'action. Et puis, c'est encore plus vrai pendant la guerre, où Gaston Leroux reprend son personnage, malgré tout, plus tard, en Bulgarie d'abord, pendant la guerre des Balkans. Il en fait un agent secret, carrément, et en même temps, un amoureux à la quête de la femme qu'il aime. Donc là, totalement un personnage d'aventure, qui va vivre des choses incroyables. Et il va ensuite le prendre, pendant la Première Guerre mondiale, comme agent secret au service du gouvernement. Alors là, c'est déjà plus du tout le même statut que le statut de départ. On a là un agent secret avant l'heure, je dirais, puisque c'est le genre de personnage qu'on connaîtra beaucoup dans les années 50 et au moment de la guerre froide. Et on le voit là agir contre l'Allemagne, s'infiltrer en Allemagne, en retirer un inventeur et son invention. Et c'est un personnage qui a un statut différent. Et encore, dans les deux dernières aventures que vivra Rouletabille, le statut n'est pas le même. Rouletabille va servir au cinéma, là encore un domaine que Gaston Leroux veut investir, et il se dit qu'après tout la recette de Rouletabille va peut-être l'aider, ce qui ne sera pas vraiment le cas, puisqu'on ne peut pas dire que ce soit une très grande réussite que le Rouletabille chez les Bohémiens. Et enfin, le crime de Rouletabille, qui est un roman où on retrouve à la fois le Rouletabille amoureux et qui va perdre sa femme, et puis l'enquêteur qui va devoir se disculper d'un crime. Donc il déjà, c'est un personnage qui vieillit, qui est le cas effectivement d'autres personnages, mais pas toujours. Il y a beaucoup de personnages qui ont quand même tendance à être, à avoir gardé un âge immuable et des habitudes immuables.
J'ai toujours deux ou trois sujets de romans qui sommeillent en moi. Et quand je trouve dans mes lectures des choses qui se rapportent à l'un ou à l'autre des sujets en gestation, je les note et les mets dans un dossier. Quand j'ai achevé un livre, je m'octroie 2 mois de repos pendant lesquels je pense au prochain de la façon la plus paresseuse. Je ne travaille que sur traité. Il faut que je me sente poussée par les dates. Je trace alors un plan très sommaire, mais très solide, car avant tout, le livre doit être logique. En second lieu, je donne des noms à mes personnages. Ils ne peuvent en effet commencer à vivre avant d'avoir reçu des noms et un signalement. Comme j'ai été paresseux à écrire tout cela, je me fais alors un beau programme. C'est l'époque de l'ordre. Je colle ce programme, cet horaire, dans la chambre de ma femme ou de ma fille. Quand elle passe devant, elle salue respectueusement.
Comment est-ce qu'il écrivait ces textes, Gaston Leroux? Il prend des notes Jean-Pierre Croquet.
Il accumule une grosse documentation et on voit bien, bon, il utilise à la fois une documentation et il utilise aussi ce qu'il a vu. Il y a un côté ancien reporter, ne serait-ce que la Russie qui intervient dans plusieurs romans. C'est qu'il a fait des reportages importants en Russie qu'il a recueilli dans un livre qui s'appelle L'agonie de la Russie blanche. Et bon, on le retrouve dans Rouletabille chez le tsar, on le retrouve dans Les Ténébreuses, de même qu'il s'était beaucoup documenté sur les gitans. Et bien on retrouve ça dans La Reine du Sabbat, on retrouve ça dans Rouletabille et les Bohémiens, et avec aussi cette idée que lorsque un sujet est dépassé par l'actualité, il ne sort pas le livre. C'est par exemple le cas de Pouloulou, qui est un livre qui n'a pas sorti, que Lacassin a republié il y a une dizaine d'années, et qui n'a pas sorti pourquoi? Parce que ça se passait avant la Révolution, et qu'entre-temps, il y a eu la Révolution russe, donc son livre, de cette façon, ne collait plus à l'actualité, donc il ne l'a jamais publié.
Collé à l'actualité, par exemple, on a l'impression que Gaston Leroux utilise le fait divers également. Par exemple, Landru.
Ah oui, tout à fait. Landru dans la poupée assassinée et la machine sanglante, oui, il y a l'ombre de Landru. Mais ce qui fait la force de Leroux, c'est qu'il intrigue dans ses romans quantité de thèmes. Il y a des romans dans les romans. On s'aperçoit, par exemple, dans Le mystère de la chambre jaune, bon, il y a bien sûr la recherche
du criminel et la résolution du mystère, mais en même temps, il y a l'aventure personnelle de Rouletabille qui est à la recherche de sa mère, qui est une sorte d'Édipe qui va se avoir une quête personnelle qui va se superposer à l'histoire.
C'est-à-dire, ce qui crée le mystère, c'est un parfum qui émane de tous ces plans qui s'entrecroisent.
Et en même temps, le fait que Leroux construit ses histoires par mystères successifs. Hein, par exemple, dans le mystère de la chambre jaune, il y a des mystères annexes qui, d'une certaine façon, masquent ou protègent le mystère principal. Comme par exemple le cri de la bête à bon Dieu. Bon, alors qu'est-ce que c'est que ce cri de la bête à bon Dieu qu'on entend dans la nuit ? Ensuite, il y a des phrases qu'on surprend, comme ce soir, on va manger du saignant. Il y a ce personnage de l'homme vert, qui est un personnage énigmatique. Qui est-il vraiment ? Est-ce vraiment un garde-chasse ? Bon, on va avoir des mystères, par exemple, comme ces phrases en italique, qui sont là pour inquiéter, pour susciter la curiosité du lecteur. Parfois, elles peuvent être banales, mais elles sont mises en italique, donc elles prennent un relief extraordinaire. Parfois, elles sont absolument absurdes, incongrues, comme cette pendule qui sonne minuit à 2h moins le quart, comme cette phrase, ça va se savoir chez les veaux. Et en fait, autour de ces phrases, il y a une sorte de contrainte que Gaston Leroux s'impose, peut-être un peu comme Roussel, qui partait de phrases homophones. Lui utilise ces phrases en italique pour à la fois susciter la curiosité du lecteur et puis tenir le pari de les justifier de manière à ce qu'à la fin, elles deviennent tout à fait banales et elles sont éclairées en quelque sorte par la fin de l'histoire.
Très souvent, il était heureux de nous lire ce qu'il avait fait, ce qu'il avait écrit dans la journée. Alors nous nous réunissions, même les domestiques venaient là, et quelques amis très intimes, et on écoutait ce qu'il avait écrit. Et le lendemain, on avait la suite, et on attendait impatiemment, toujours, on était toujours haletant, cherchant toujours ce qui allait pouvoir se produire.
Messieurs les directeurs, je vous avais pourtant prévenu, mais vous avez cru bon de passer outre. Vous occupez ma loge et j'attends toujours ma mensualité.
Qu'est-ce que c'est ? Qui a parlé ? Où êtes-vous ?
Je suis le fantôme de l'opéra, messieurs les directeurs. Votre fantôme. Mais peu importe où je suis, levez plutôt la tête. Et regardez donc le grand lustre ! Ah !
François Guérif.
Moi, ce que j'aime surtout, c'est cette façon dont, d'abord, le fantôme est une légende. Hein, il y a l'histoire de la loge numéro 5, est-ce que c'est vrai, le suicide du machiniste, les petits rats, les petites cantatrices qui ont peur. Donc, c'est une légende. Et puis après, il y a la voix. Bon, donc déjà, on se dit, et puis il y a la matérialisation, et puis il y a le sacrifice. Et je trouve que toute cette gradation est formidable. Ce qui est mis en scène et en jeu, c'est intéressant, c'est que ça s'appelle le fantôme de l'opéra. Et par là, j'ai l'impression que Gaston Leroux dit bien que son héros est Éric, l'homme qui vit dans les catacombes, dans les sous-sols de l'opéra, et que, contrairement à ce qui se produit à l'époque dans les romans populaires, ça n'est pas le couple qui est Christine et Raoul, c'est-à-dire que la jeune cantatrice et son fiancé qui sont les héros, mais bien cet homme qui a été défiguré par le destin, qui est tombé amoureux de cette cantatrice, qui l'a tel Pygmalion, qui l'a vraiment formé, qui en a fait un génie du chant, puisque il est clair dans le roman que au début, on dit que c'est une petite cantatrice comme les autres, et quand elle doit remplacer au pied levé la grande cantatrice qui est indisposée, eh bien d'un seul coup, les directeurs de l'opéra découvrent avec surprise qu'elle est géniale. Donc c'est une grande histoire d'amour, c'est une tragédie. En même temps, ce que je trouve aussi assez extraordinaire, c'est, comme souvent chez Leroux, il y a tout un aspect documentaire en même temps que fantasmatique, c'est-à-dire que la description au début des sous-sols de l'opéra, des trappes, des souffleurs, C'est-à-dire cette idée complètement cinématographique, d'ailleurs géniale, que vous êtes sur une scène éclairée de lumière et que d'un seul coup la caméra descend et qu'on vous fait découvrir un monde parallèle et souterrain est complètement passionnante. C'est une magnifique histoire.
Tu vois mes lèvres, elles ne remuent pas, ma bouche est fermée et cependant tu entends ma voix. Tu veux l'entendre de près,
de loin,
de près,
de loin,
de près,
de loin.
C'est ainsi que la Carlotta a poussé son fameux. C'est ma voix qui était dans sa gorge. Et ces pauvres directeurs, ils n'ont pas encore compris. Ils étaient dans la loge numéro 5, ma loge. Et ils ont entendu une voix qui leur disait...
Regardez la nuit !
C'était toujours ma voix. Ma voix qui monte et descend à travers les colonnes creuses de l'opéra. Ma voix qui peut aller partout. Et maintenant... Où est-elle, ma voix ? Dans la chambre des supplices. Et que dit-elle, ma voix ? Malheur à ceux qui viennent se promener dans la chambre des supplices.
Posez-vous, Eric, je vous en supplie.
Tu as raison, je ventriloque trop.
Moi, je n'ai connu mon père qu'à Nice, puisque j'avais 7 mois quand je suis arrivée à Nice. Mais je sais par ses amis, par ma mère, que quand il était journaliste et qu'il était à Paris et à travers le monde, il était tout aussi joyeux.
Madeleine Leroux.
Mais dans la journée, il avait besoin d'aller retrouver les notabilités de la ville et d'aller jouer au poker, d'aller au grand cercle. Il était très joueur. Il y passait souvent ses soirées et c'est la seule chose, la seule note un peu triste, si vous voulez, qu'il y ait eu, c'est que souvent ce qu'il gagnait en écrivant le jour, il le perdait en jouant la nuit. Ça, c'était son seul vice. Et d'ailleurs, mon père disait à son frère, écoute, nous ne travaillerons que quand nous n'aurons plus tout cet argent qui nous gêne.
Alphée, on va peut-être revenir au roman feuilleton. Ces romans feuilletons qui, en fait, procèdent également du jeu.
Disons que Gaston Leroux a été joueur toute sa vie. Il fréquentera beaucoup les casinos et il y laissera malgré tout beaucoup d'argent. Dans son œuvre, ça transparaît totalement. C'est-à-dire que toute l'œuvre de Gaston Leroux peut être considérée comme un jeu avec l'écriture, un jeu avec la littérature. Et il y a des joueurs dans quelques œuvres de Leroux, mais ça se développe à d'autres niveaux. Il y a des personnages qui jouent avec d'autres. Il aurait voulu être auteur dramatique et je crois que dans tous ses romans, il est metteur en scène au moins autant qu'auteur. Donc il met en scène des personnages avec, comme des marionnettes qu'il peut tirer un petit peu dans tous les sens. Alors vous me direz, ça c'est le cas de beaucoup d'auteurs qui créent des personnages pour pouvoir ensuite créer des situations, etc. Mais chez Gaston Leroux, il y a la volonté dès le départ de multiplier ses potentialités de jeu et de donner une ouverture maximum à cet imbroglio entre les personnages et les situations qui peuvent leur arriver.
Alors, s'il fallait caractériser Gaston Leroux en partant du personnage tel qu'on le connaît, tel qu'on le décrit au départ de sa biographie, on pourrait dire qu'en apparence, c'est un bon vivant, c'est quelqu'un qui était heureux de vivre, qui était d'ailleurs au niveau, sur le plan pécuniaire, un flambeur, qui aimait aller jouer au casino, et que l'on a très souvent décrit comme étant simplement quelqu'un qui n'est guère soucieux ni de sa santé, ni en tout cas de sa ligne, qui aimait bien manger, bien vivre, et qui, à la limite, accessoirement écrivait.
Jean-Pierre Bourg.
Je crois que c'est une image tout à fait inexacte du personnage, et que le bon vivant, c'était peut-être simplement le masque sous lequel, pour des raisons de convenance ou de simplicité, c'était le masque sous lequel il vivait. Et que quand on lit les romans de Gaston Leroux, on s'aperçoit que la réalité est tout à fait différente. Et que aussi agréable à lire soit-il, parce qu'il y a une véritable jubilation dans l'écriture, là où Leblanc est un classique, je dirais que Leroux est un baroque, il y a donc un véritable agrément, jubilation, plaisir de l'écriture chez Leroux, mais quand on creuse un petit peu les intrigues de ses romans, on s'aperçoit qu'il y a là derrière un pessimisme foncier. Il y a le pessimisme de Chéri Bibi qui s'exclame volontiers fatalitas parce que il est prisonnier d'une destinée qui le ramène à lui-même et qui l'enferme dans une énigme qui va mal se terminer. Il le sent, même s'il ne voit pas où il va, mais il sait qu'il va vers la destruction. Il y a le pessimisme du fantôme de l'opéra, qui est l'histoire de cet homme qui doit vivre derrière un masque parce qu'il ne peut pas se montrer tel qu'il est. Et il sait lui aussi que le monde souterrain dans lequel il vit est un monde qui est à l'écart de la réalité et qui ne peut d'ailleurs pas persister. Il y a le pessimisme finalement de Rouletabille, aussi rationnel soit le personnage de Rouletabille, lui aussi est amené en définitive à constater que l'univers est une sorte de représentation, qu'il est peut-être là pour en tirer certaines ficelles parce que grâce à son habileté, grâce à son caractère rationnel, il peut faire tomber certains masques, mais les découvertes qu'il va être amené à faire sont des découvertes qui vont d'abord l'atteindre lui-même en premier lieu. Et finalement, c'est assez curieux de constater que cet écrivain, qui est un bon vivant, qui est un homme qui apparemment aime écrire, qui a le sens extraordinaire de la formule, dont de nombreuses phrases sont restées célèbres et qui paraissent d'ailleurs être des phrases écrites par quelqu'un qui avait véritablement le plaisir d'écrire, lorsqu'on creuse un petit peu ce qu'il fait, est un pessimiste profond.
Troisième lettre.
Ma chère Christine, je reprends mon récit au point où je l'ai laissé la nuit dernière. Je me sentis donc mordue par le monstre, par ce monstre qui était quelque part derrière moi. Ah, l'horrible sensation, je la connaissais. Au moment où je m'y attends le moins, toujours au moment où je m'y attends le moins, je sens sa dent aiguë qui me pénètre la veine et qui se retire après y avoir laissé son venin. Oui, du venin. J'imagine que les vampires ont, comme les vipères, une dent creuse pleine de venin, d'un certain poison qui se répand dans tout votre corps avec une rapidité et avec une douceur à laquelle il est impossible de résister. Vous sentez immédiatement vos forces fuir comme par une porte ouverte, qui est ce petit trou de la morsure. C'est un engourdissement qui surprend plus qu'il ne fait souffrir, et qui en est d'autant plus terrible lorsque, comme moi, on en connaît la suite. La suite, c'est le monstre lui-même qui arrive. Car les vampires ont cette particularité que n'ont point les vipères. Ils mordent à distance.
Gaston Leroux, La poupée sanglante.
Pour être franc, c'est un livre qui ne fait pas l'unanimité. Même parmi les amateurs de Gaston Leroux, il y a des défenseurs acharnés de ce livre, tels Éric Losfeld quand il l'avait republié, ou Boris Vian, ou Jean Ferry qui avait signé un papier presque manifeste dans la revue Bizarre en faveur de ce livre. Et puis le dernier livre qui est paru sur Gaston Leroux, qui est celui d'Alain Fuselier, Parcours d'un auteur, bon, il trouve que c'est un roman confus, faussement fantastique, trop long, mal construit.
François Guérif.
Pour moi, ce que je trouve passionnant, c'est les thèmes qui s'y entrecroisent. Il y a à la fois un roman romantique, bon, qui est encore une fois son héroïne, qui s'appelle encore Christine, et son fiancé s'appelle Jacques, qui, cette Christine, avec son père et son fiancé, a construit un automate qui est d'une beauté extraordinaire, qui s'appelle Gabriel. D'un autre côté, il y a Bénédicte Masson, qui est très laid, qui est le monstre, qui est un relieur dans l'île Saint-Louis. Et puis, il y a un noble, je ne me souviens plus exactement, c'est un vicomte ou un comte, et sa femme, qui sont les propriétaires de l'atelier où a été construit le robot, et donc la Christine ne peut pas... Il est amoureux de Christine, évidemment, et Christine ne peut pas vraiment le rejeter. Et celui-là, là, c'est une histoire de vampire. C'est-à-dire que la femme de cet homme dit que il est la réincarnation d'un homme qui vit au XVe siècle. Enfin, il n'est pas la réincarnation, il est la continuité, parce qu'il est vampire, qu'il est en train de la tuer. Donc il y a toutes ces histoires qui se mélangent, et il y a des choses, je vais dire, parce que pas expérimentales, mais en tout cas je trouve formidable, c'est dans Bénédicte Masson, au début, si je me souviens bien, on le découvre par un récit à la première personne, donc c'est un monsieur qui paraît souffrir, mais gentil et tout, et puis d'un seul coup, quand on passe, j'allais dire, du côté objectif, il est en train de dépecer et de brûler un cadavre de jeune fille, parce que il a une maison dans les marais, enfin bien à la campagne dans les marais, dans laquelle il attire des jeunes filles sous prétexte de leur donner des cours de reliure. Bon, et en plus, il est vu dans cette activité par Christine en question. Et si Christine vient là pour chercher du secours, c'est parce que la comtesse ou la marquise, je crois que c'est une marquise, donc la femme du vampire vient de mourir, enfin, etc. Alors, c'est la façon dont c'est écrit, c'est la façon dont on se rend compte en lisant le livre, en plus qu'il connaissait, j'allais dire bien d'une certaine façon, la tradition. Tout l'épisode vampire, une grande partie est traitée par des lettres de la marquise. Donc comme Bram Stoker, c'est le roman à lettres de l'époque qui traitait de ce thème. C'est aussi, est-ce que c'est une véritable histoire de vampire? Est-ce que c'est pas une histoire de vampire? Parce que finalement, la marquise réapparaît et elle terrorise le village. Mais à la fin, en même temps, on dit qu'elle trouve le repos dans le trépas réel. Donc à ce moment-là, c'est quand même une convention aussi du récit de vampire. Tout le récit policier est formidable, je trouve, de concision et de violence. C'est vrai, la découverte du dépeceur de cadavres, la façon dont... Et puis, alors, l'histoire, c'est évidemment la plus belle, c'est que on met le cerveau... Alors, le Béhic Masson est guillotiné, et Jacques, qu'il croit innocent, met son cerveau dans l'automate, donc c'est Frankenstein. Et enfin, alors, l'idée géniale chez Gaston Leroux, je trouve, c'est que cet homme... qui aimait désespérément cette femme, sa voisine, et qui ne pouvait pas la conquérir parce qu'il était laid, il est maintenant un automate, donc il est un être de métal, et parce qu'il est beau, d'un seul coup, il conquiert son cœur. Mais, et là aussi c'est dans les glaces, je crois, comme la fin du roman Frankenstein, à la fin, finalement, il va se jeter dans le vide parce qu'il se rend compte qu'il ne pourra jamais être un homme, que donc il pourra jamais aller jusqu'au bout de cet amour.
On peut dire que Leroux utilise finalement les éléments fantastiques fin de siècle. Hein. On va trouver le spiritisme, on va trouver des théories sur la transmigration des âmes. On va croiser des personnages qui évoquent tout à fait les grands mages ou les grands sars de la fin du 19e siècle, comme Péladan. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait réellement chez Gaston Leroux... une adhésion au surnaturel, sauf peut-être dans un livre qui est Le cœur cambriolé.
Pour moi, Gaston Leroux, c'est au-delà d'un écrivain populaire, un écrivain fantastique, parce que le regard qu'il porte sur les choses et la façon qu'il a la sienne de décrire la réalité et de construire les intrigues en fait un écrivain évidemment fantastique.
Jean-Pierre Bourg.
C'est-à-dire que Gaston Leroux part toujours de la réalité. Pour moi, le fantastique, c'est ça. Le fantastique, c'est pas le merveilleux. Le merveilleux, ça se situe dans un univers totalement imaginaire où les règles du jeu ne sont pas celles que nous connaissons. À la limite, dans le monde du merveilleux, il n'y a pas de pesanteur. Le fantastique, ça se situe dans un univers quotidien avec, tout ce que nous connaissons de la vie quotidienne et tout ce que nous vivons de la vie quotidienne, c'est un univers où il y a le sang et la sueur, où il y a 24 heures, où il faut dormir, où il faut manger. Et le fantastique prend son départ à partir de la réalité quotidienne parce qu'à un moment donné, il survient quelque chose qui non seulement est inexplicable, mais qui demeurera inexpliqué. C'est tous les thèmes que vous voulez du fantastique, un des plus beaux thèmes à l'heure actuelle et depuis très longtemps, un thème que je trouve passionnant dans le fantastique, c'est le thème soit du dédoublement de personnalité, soit de l'emprise d'un être sur un autre qui fait qu'ils vont soit échanger leur personnalité, soit que quelqu'un va se retrouver avec la personnalité d'un autre, une sorte de fantastique intériorisé.
Gaston Leroux vient du théâtre. Une de ses premières ambitions, c'était d'être un auteur dramatique avec des pièces comme la Maison des Juges, par exemple. Et il est contemporain du Grand Guignol, ce fameux théâtre de la rue Chaptal où se sont illustrés des auteurs comme André Delorde. Et lui-même a écrit une pièce pour le Grand Guignol. Et beaucoup de ces scènes d'horreur sont des mises en scène. Ne serait-ce que dans la fin de la Reine du Sabbat, par exemple, on peut dire que, pour parodier peut-être un peu le style de Gaston Leroux, on a un tableau vivant de cadavres qui sont minutieusement décrits avec force détail et humour noir aussi. Comme ce personnage, je crois que ça s'appelle le duc Ferdinand, qui est venu sans ses oreilles, par exemple. Où on a une expression comme « sa tête éclatante était tout éclatée ». il joue énormément avec les mots et puis aussi sur les images. Il y a dans La double vie de Théophraste Longuet un boucher qui tue les veaux, et une phrase qui revient, ça va savoir chez les veaux, et à la fin il est tué effectivement par un veau et on retrouve sa tête mise en scène comme une tête de veau avec du persil dans les narines.
Chéri Bibi, c'est Chéri Bibi qui a mis le feu. Nous l'avons vu. Il est encore dans la maison, vous l'entendez? C'est lui qui crie. Il brûle.
Alors, Chéri Bibi, c'est tout à fait extraordinaire de le constater. Chéri Bibi, c'est une anticipation de ce qu'André Malraux écrivait à propos de Faulkner. C'est vraiment l'intrusion de la tragédie grecque dans le roman policier. C'est l'histoire d'un homme qui procède à une enquête, qui va jusqu'au bout de son enquête, et puis qui est obligé de découvrir que, dans une certaine mesure, l'assassin, c'est lui-même. Les deux premiers épisodes de Chéri Bibi, donc les cages flottantes et Chéri Bibi et Cécilie, constituent non seulement un roman absolument extraordinaire, passionnant à lire, qu'on ne quitte pas, mais je dirais un des plus beaux exemples, si pas le plus bel exemple, d'une part de l'art de Gaston Leroux et d'autre part d'un concentré de ses thèmes les plus importants. D'abord, Chéri Bibi est un roman populaire, c'est une histoire de bagnard, c'est un thème déjà tout à fait populaire, c'est une histoire de vengeance. Mais Gaston Leroux est allé beaucoup plus loin que cela. Il a construit son roman au départ sur une histoire à la Monte Cristo, l'aventure de quelqu'un qui est condamné pour un crime qu'il n'a pas commis et qui va donc être confronté à une double difficulté. D'abord, il doit s'évader, et ça c'est déjà quelque chose de très populaire, mais ensuite, une fois évadé, il doit se venger. Pour se venger, il doit mener une enquête. Donc nous avons également le roman policier là derrière. Et ce qui va arriver de tout à fait particulier à Chéri Bibi, et ça donne une certaine modernité au personnage, et c'est un deuxième thème important de Gaston Leroux, c'est qu'il va ensuite... Il faut accepter le postulat, mais on l'a bien utilisé dans des films récents, il va se faire greffer le visage de quelqu'un d'autre. Et il va donc poursuivre son enquête sous l'apparence de quelqu'un d'autre. Et au terme du roman, il va d'ailleurs faire une découverte effroyable pour lui, c'est qu'en réalité, l'assassin qu'il cherche et à cause de qui il a été condamné n'est autre que celui dont il a pris l'identité, ce qui fait qu'il est obligé de se dénoncer lui-même. C'est assez extraordinaire, d'abord parce qu'on ferme la boucle et qu'on apprend que l'enquête à laquelle se livrait Chéri Bibi est une enquête qui l'a amené à découvrir qu'en réalité l'assassin c'est finalement lui-même. Et ça c'est assez caractéristique de certains, d'un thème en tout cas qui est utilisé assez fréquemment par Gaston Leroux, c'est le thème de la recherche de l'identité. Quand vous prenez le mystère de la chambre jaune, vous constatez en définitive que ce que fait Rouletabille, c'est chercher un coupable, et au-delà de chercher un coupable, il recherche son père, et il s'aperçoit qu'ils ne font qu'un. Dans La double vie de Théophraste Longuet, qui est quand même le premier roman de Gaston Leroux, c'est donc tout à fait significatif quant au choix du thème, nous avons quelqu'un qui est un brave petit bourgeois, tout à fait inoffensif en apparence, et qui s'aperçoit que dans une autre vie, il était le bandit cartouche. Il y a énormément de romans de Gaston Leroux dans lesquels on retrouve ce thème de la recherche de l'identité, ce thème qui est fantastique. Le cœur cambriolé, c'est aussi ça, c'est aussi un problème d'identité, personne qui est amoureuse de quelqu'un qui est décédé, enfin il y a quelque chose de très curieux aussi là derrière, et ça donne à mon avis à ces romans un côté tout à fait moderne.
C'était Une vie, une œuvre. La double vie de Gaston Leroux. Une émission proposée par Florence Marguier. Avec Jean-Pierre Bourg, avocat et romancier. Alfu, biographe. Jean-Pierre Croquet, écrivain. François Guérif, directeur des éditions Rivage Noir. Jacques Boudou, critique. Michel Cazenave, écrivain. Remerciements à Daniel Compère. Texte lu par Catherine Terouen et Luc Ponette et publié par Francis Lacassin dans la collection Bouquin Lafont. Archive INA, Madeleine Leroux. Le fantôme de l'opéra avec Alain Cuny, mis en onde par Claude Roland-Manuel. Enregistrement et mixage Simone Ronger, Muriel Sunner, Monique Burguière. Réalisation Jean-Claude Loiseau.
Diffusé une première fois le 20 novembre 1997, ce documentaire est disponible en ligne et podcast sur le site de France Culture. La semaine prochaine, samedi à 17h, Une vie, une œuvre sera consacrée par François Connac et Anne Franchini-Pérez à Gladys Huntington.